Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 27 novembre 2010 à Lyon, dans la salle Jean Toussaint de Santi, qui était un de mes amis, à qui j'ai dédié Traces de psychanalyse. Et il y a là aujourd'hui un colloque, Les fins de la littérature, organisé par Dominique Viard. Et je suis avec le professeur Claude Burgelin, qui était professeur de littérature à l'université Lyon 2 et qui a bien connu Georges Perec. Alors, parlez-nous un petit peu de la relation que vous avez eue avec Georges Perec.
Oh, j'ai eu une relation amicale, très simple et très facile avec Georges Perec. Je l'ai connu quand j'avais 18 ans et que lui en avait 22. La première fois que je l'ai vu, il était parachutiste. Il faisait son service militaire, le malheureux, dans les paras à Pau. Et le dialogue a été très très facile avec lui et très immédiat.
Pourquoi? Comment ça s'est passé exactement?
Parce que c'était un garçon très, je ne dirais pas très simple, mais qui simplifiait les relations. Il était passionné de littérature, il voulait devenir écrivain, et il essayait, avec tout un groupe dont j'ai fait vite partie, la ligne générale, de mettre au point ses idées sur la littérature, qui était en gros issue de la pensée de Lukács.
Et alors, ensuite, vous l'avez fréquenté plus longuement, quand il a commencé à écrire?
Oui, et avec toujours beaucoup de plaisir, parce que c'était un homme très, à la fois c'était un homme très ravagé et aussi un homme très joyeux. Et en particulier, il adorait rendre complice de ce qu'il était en train de faire et d'écrire. C'est quelqu'un qui a toujours eu présente la dimension ludique de son travail. Et il était presque comme un enfant de 4 ou 7 ans qui vous dit « viens jouer avec moi, je suis en train de jouer avec les mots de telle et telle façon, c'est formidable, je vais te montrer ».
Il aimait parler de ses livres.
Il aimait parler de ses livres, il aimait parler de son travail, c'était très important. C'est quelqu'un qui s'est toujours conçu, d'ailleurs presque plus comme un artisan que comme un artiste. Et au fond, il disait « entre avec moi dans mon atelier, je vais te montrer avec quoi je suis en train de travailler, voilà mes outils ».
Et vous aviez des discussions sur tous ces livres ou sur certains en particulier ?
Le mot de discussion n'est pas le mot qui convient. C'est lui qui parlait de ce qu'il faisait. Et effectivement, il faisait partager, par exemple, La Disparition, ce grand livre qui a été écrit sans utiliser, vous voyez, le « e ». C'est un texte, en réalité, qui a bien des égards, un texte collectif, parce qu'il a utilisé des tas de bouts de texte que ses copains lui fournissaient.
Et qu'est-ce qu'il disait sur La Disparition, lui ? Comme ça, dans une conversation.
Eh bien, justement, il présentait uniquement la performance d'écrire sans la voyelle E, mais il masquait absolument que c'était en réalité toute une réflexion sur la question du génocide des Juifs.
Alors, quelle place occupe la Shoah dans son histoire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il abordait facilement ou pas ?
C'était ça, une place absolument fondatrice en réalité de toute sa relation à l'écriture, au langage, etc. et à sa vie propre, mais sur sa souffrance personnelle d'orphelin de la Shoah, il ne disait quasiment rien.
Même quand on le poussait. Est-ce qu'on pouvait même le pousser?
Non, justement, on ne le poussait pas. Parce qu'on sentait qu'il y avait là quelque chose dont il ne voulait pas parler, il s'en tirait parfois avec des formules, extrêmement sarcastiques. Je crois qu'il y avait quelque chose qui n'est pas facile à dire, qu'il en voulait à ses parents d'être mort dans ces conditions-là.
Alors comment ils sont morts, ses parents? Ça serait intéressant de le rappeler.
Son père a été tué, il le dit dans W, bêtement, puisque c'était à la veille de l'armistice en 1940, il était engagé volontaire. Et les morts d'une hémorragie qu'on n'a pas pu arrêter. Et sa mère a été déportée à Auschwitz, prise dans une rafle. Et il lui en veut. La famille de Perec a essayé de faire revenir cette petite belle-sœur dans le sud, dans la zone libre. Elle n'a pas pu su le faire et je crois que Perec lui en a voulu de ne pas avoir pu ou su se protéger mieux.
Et donc il a été élevé par une tante, c'est ça?
Il a été élevé par les familles Binnenfeld, c'est-à-dire par la sœur de son père. Alors ce qui est très étonnant dans son trajet, c'est que ses parents étaient des artisans extrêmement modestes, qui vivotaient très petitement, alors que là, c'était la partie de la famille qui s'était enrichie. Et donc, du fait qu'il a été un orphelin, il a été élevé comme un gosse de riche, alors que son destin n'était pas celui-là. Et je crois que c'est quelque chose qui l'a beaucoup troublé.
C'était des gens très assimilés, non?
Au trait, des gens qui étaient passionnés de culture et qui ne voulaient plus entendre parler une seconde des histoires de Pologne, du ghetto, etc.
Et son rapport alors au judaïsme, tout court?
Oh, son rapport au judaïsme a été sacrément compliqué, puisque, au fond, comme beaucoup de gens de sa génération, c'était au début « je ne veux plus rien savoir de tout ça ». Et avec l'idée que, justement, le communisme, c'était une façon de ne plus rien savoir de tout ça, puisqu'on allait vers une société sans classe qui résoudrait ce genre de problème et qu'on ne...
Il y croyait vraiment?
Il croyait sans y croire. Mais comme beaucoup de gens de sa génération aussi, il y croire sans y croire, ça a été toute ma génération.
C'est un espoir. C'est un espoir.
Oui, c'était un espoir. Et bon. Mais c'était aussi une façon de se dégager de ça et aussi une nécessité de repartir de l'avant, hein, qu'ont éprouvé beaucoup de gens de sortie de cette catastrophe-là, qu'il fallait reprendre pied et se reconstruire. Ça n'est venu que progressivement. C'est venu par l'écriture de W. Le Suzanne d'enfance, qui part en 75, qui est contemporain aussi de la vraie psychanalyse qu'il a faite. Et puis aussi après de l'écriture d'Ellis Island, le film qu'il a tourné avec Robert Robert, qui est paru en 1981. Et là, Ellis Island a été une façon de méditer sur l'histoire des Juifs, et donc sur lui-même en tant que Juif. Et qu'est-ce que c'était pour lui qu'être Juif? Et il dit très bien, c'est un flottement, une inquiétude, une question.
Mais il dit aussi que Bobert y est, et lui part d'une certaine façon. Est-ce que c'est vrai, selon vous?
Oui, je pense que Bobert était bien plus inscrit, savait mieux où il en était que Pérec, que Pérec l'orphelin, que Pérec à qui rien n'a été transmis, alors que pour Bobert, il y avait eu de la transmission. Et lui, oui, il s'est vécu comme quelqu'un qui était en rupture de transmission. Alors ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'en réalité, cette transmission, il l'a littéralement reconstruite dans ses livres. Le Talmud, il le retrouve au Talmud disant, en méditant sur le pouvoir de la lettre, comme il a pu le faire par exemple.
Il a écrit des lettres hébraïques qui n'étaient pas vraiment des lettres hébraïques aussi.
Et oui, mais justement, c'est
comme un enfant.
Comme un enfant, et il était dans ce rapport vrai-faux. Et justement, avec une fausse lettre qui dit quelque chose de vrai sur lui.
Mais ses parents parlaient yiddish, sa mère
ses parents ont su le yiddish, ses grands-parents, elle n'en parlait que le yiddish. Sa mère, on ne sait pas bien, je sais qu'elle avait un accent, un fort accent. Donc, je pense que les mots de la tendresse maternelle lui ont été transmis en français. Et son prénom est un prénom français, Georges, et Georges seulement. Il a été circoncis. Mais il n'a pas eu de culture yiddish. Et alors chez les Binnenfeld, certainement pas.
Mais il n'en parlait pas non plus alors, aussi, avec...
Non, il n'en parlait pas.
Vous lui parliez de ça ou pas du tout?
Pas trop. D'abord, moi je ne suis pas de cette tradition-là, je suis de tradition, la tradition protestante, mais avec aussi les proximités qu'il peut y avoir entre la tradition protestante et la tradition juive. Mais non, la question du yiddish, je crois que c'est une question qui ne s'est posée que très peu de temps avant de mourir.
Sous quelle forme?
Je pense que la question de la langue fantôme, la langue perdue, c'est quelque chose qui le hantait souterrainement sans qu'il le verbalise vraiment.
Oui, et Parlons un peu de son rapport à la psychanalyse, parce que ça, c'est quand même très intéressant. Vous avez écrit un livre très intéressant, les parties de... Comment ça s'appelle déjà ?
Domino chez Monsieur Lefebvre. Il se trouve qu'il a une triple expérience de la psychanalyse, et avec trois psychanalystes qui sont des figures importantes de la psychanalyse, puisque quand il était lycéen, il a été voir la psychologue, comme on disait, scolaire du lycée, qui se trouvait être Françoise Dolto. Donc il avait tout un trajet avec Dolto, dont il n'a jamais rien dit.
Pourquoi ?
C'est pas évident qu'il l'aimât tant que ça, Dolto. Mais je pense que Dolto a quand même fait quelque chose de très bien avec lui, qui est lui donner cette certitude qu'il a eue, qu'il pouvait être écrivain, qu'il serait écrivain. C'était pas évident pour un petit jeune homme de 18 ans de dire « je serai écrivain ». Il faut une confiance en soi que peu de gens ont. Et je pense que Dolto a su lui donner ça, mais par ailleurs, il n'en a jamais rien dit, donc je ne dirai pas plus, puisque je n'en sais rien. Il a fait une très brève tranche avec Michel de Muzan. Mais je crois qu'il était encore trop jeune, trop pris dans son histoire pour pouvoir en parler vraiment. Et que la vraie analyse qu'il a faite, de 71 à 75, c'est celle avec Pontalis, et c'est pendant cette période d'analyse qu'il a écrit ce livre fondamental qu'est W ou le souvenir de l'enfance.
Alors quel est le lien entre son analyse et W et le souvenir d'enfance, déjà, d'une part ?
C'est difficile à dire, mais en tout cas, ce qui est très intéressant dans W, c'est cette reconstruction si intelligemment articulée entre la narration de son histoire et montrer comment elle est, en particulier celle de la petite enfance, et comment chaque souvenir qu'il relate aurait été marqué du signe du faux, et puis la reprise dans l'imaginaire de cette histoire avec la fiction W, et puis toute la première partie de W où il se voit assigner la mission de partir à la recherche d'un enfant autiste perdu.
Alors, dans votre livre sur les parties, sur la partie de cartes, là, une partie de domino, décidément, c'est un jeu qui reste à cerner, ces parties de domino chez Monsieur Lefebvre. Qu'est-ce que vous montrez ? Il y a toute une...
Oui, je montre que Pérec a été, au fond, ambivalent à l'égard de la psychanalyse. Je crois qu'il est très reconnaissant et que l'image du jeu de puzzle qu'il emploie dans la vie mode d'emploi est très tributaire du travail fait en analyse. Il dégage une certaine ambivalence à l'égard, si jamais on fait du personnage de Barthelbus la figure de l'analyste, Pérec a mis toutes sortes de cailloux blancs pour qu'on aille penser que c'est la figure de l'analyste. Il le montre comme un personnage très froid, très désincarné et très désespéré. Et en même temps, je crois qu'il ne cesse de dire une dette à l'égard de la psychanalyse. Et il a un rapport, au fond, très, très mobile. J'avais sous-titré Pérec avec Freud, Pérec contre Freud, et je crois qu'il y a quelque chose d'important là. Et puis, par ailleurs, il en a voulu à Pontalis d'avoir parlé de son cas un peu trop tôt, un peu trop vite. Et par ailleurs, je pense qu'il s'est passé quelque chose de très important pour Pontalis dans ce que lui a apporté Pérec, et dans cette histoire d'orphelinage qu'il lui a porté, et Pontalis était lui-même un orphelin de père, et que il y a eu quelque chose d'assez bouleversant pour l'analyste dans l'histoire de cet analysant qui n'arrivait pas à trouver les mots pour dire son drame. Et donc je crois qu'il en a témoigné dans beaucoup de textes. Et puis il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé dans l'analyse, c'est que donc, Pérec avait perdu le souvenir de sa mère. Le traumatisme de la séparation quand il avait 5 ans et demi avec elle a été si fort qu'il a perdu le souvenir de cette mère et que c'est un drame qu'il a vécu dans la culpabilité. Et à un moment donné, il dit à son analyste « Je voudrais la voir comme je vous vois ». Et l'analyste lui a fait remarquer que justement, allongé sur le divan, il ne le voyait pas. Et que cette intervention semble avoir été libératrice pour lui. Et que, effectivement, c'était avec les yeux de l'âme et le autour de la parole qu'il pouvait désormais...
Il y a un petit texte de Perec sur son analyse.
Un texte formidable.
Qui s'appelle, oui.
Les lieux d'une ruse.
Voilà.
Et où il raconte son analyse à partir uniquement d'une évocation du cadre analytique, c'est-à-dire le rituel des séances, la répétitivité des choses, le temps qui passe. Et il dit extrêmement peu de choses sur ce qui s'est passé, sinon ce trop-plein d'histoires toutes faites qu'il avait, qu'il a fallu évacuer. Et puis cette évocation de la fin que un jour les paroles se sont trouvées pour dire quelque chose qui s'est libéré.
Cette libération, c'est une analogie entre le cabinet de l'analyste et la chambre à gaz. Aussi,
effectivement,
il va
jusque là, et oui. Par là même, il fallait qu'il entre dans cette chambre pour pouvoir en sortir.
Et vous pensez que c'est vraiment quelque chose de nodal dans son analyse, cette association, cette analogie qu'il a faite là?
Je garderai de donner une réponse trop précise à cette question abyssale. Toujours est-il qu'il l'a traversée, en tout cas, cette question. Que c'est un homme qui a toujours été fasciné par les chambres et les lieux clos, et qu'effectivement, il n'a cessé de penser à cette scène pour lui inaugurale et irreprésentable de la mort de sa mère étouffée dans la chambre à gaz.
Mais il dit aussi dans ce texte que l'analyse, c'est une expérience du temps.
Oui.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Que c'est une expérience de la durée, de la répétition, de la redite, du ressassement, et qu'il fallait, et c'est quelqu'un qui a été très obsédé par les figures du ressassement, Perec, et de la répétition, qu'il fallait en passer par là pour que quelque chose, un jour, advienne.
Merci beaucoup.